Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
À la une, ce face-à-face, Félix-Antoine Tshisekedi, Paul Kagame, aujourd'hui à Luanda, en Angola, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23 qui a repris les combats dans l'est de la RDC, ce que nie le Rwanda. Le président angolais va ainsi jouer le médiateur entre les deux pays. Et puis, cette bonne nouvelle, le marché frontalier de Loufo au Congo central reprend ses activités après 2 ans d'arrêt liés au Covid-19. La réouverture officielle a eu lieu hier lors d'une grande cérémonie à laquelle ont pris part les ministres de l'Intérieur, de la RDC et de l'Angola. Et puis, l'Assemblée provinciale du Lualaba a voté un édit portant modalités d'indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par le boom minier dans la province du Lualaba. Pour en parler, nous recevons Gaston Mouchid, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba et auteur de cette proposition d'édit. Madame, Messieurs, bonjour. Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda se rencontrent ce mercredi à Luanda. Dans un contexte de tension entre les deux pays, la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23 qui a repris les combats dans l'est du pays. Est-ce que les autorités rwandaises nient? Le président angolais João Lourenço, qui va jouer le médiateur entre les numéros 1 congolais et rwandais, va chercher à aider ses pairs à aplanir leurs divergences pour que la paix revienne entre Kinshasa et Kigali. Cette rencontre est diversement commentée dans l'opinion. Ceux qui privilégient la solution militaire pour mettre fin à l'agression de la RDC par le Rwanda estiment que le président Félix-Antoine Tshisekedi ne devait pas accepter de se rendre à Luanda pour rencontrer Paul Kagame. D'autres, par contre, soutiennent la voie diplomatique. C'est cette seconde voie qui est mise en avant par la présidence de la RDC. Giscard Kousséma, le directeur adjoint de la presse présidentielle qui se trouve déjà dans la capitale angolaise, déclare que l'approche de Luanda s'inscrit dans la politique diplomatique que le chef de l'État congolais privilégie en ce moment. Sans exclure l'approche militaire, on l'écoute.
Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est résolument engagé à trouver une solution durable face à la crise sécuritaire dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, on peut comprendre la colère des uns et des autres par rapport à ces agressions répétées. Mais pour mettre un terme à ces conflits, le président de la République a opté pour 2 voies. L'une diplomatique et l'autre militaire. Et la tripartite de Luanda de ce mercredi 6 juillet s'inscrit justement dans les cadres de cette voie diplomatique. Le soutien militaire du Rwanda aux côtés du M23 étant évident, nous pensons donc que c'est l'occasion pour le président de la République de dire en face du pays agresseur de cesser d'apporter son soutien au M23. Mais on peut aussi comprendre que l'approche militaire n'est pas exclue, elle est toujours d'actualité et que chaque jour, les forces armées de la République démocratique du Congo s'organisent pour sauvegarder le périmètre du territoire national. Donc, à ces jours, on peut croire que les deux approches ne sont pas incompatibles, mais elles sont parallèles.
Des réactions à cette rencontre de Luanda, député national et président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Bertin Mubonzi, dit espérer qu'à Luanda, les deux chefs vont se dire la vérité pour que la paix revienne enfin entre les deux peuples et dans la région. On l'écoute.
Il n'y aura aucune négociation en Angola. C'est une rencontre autour du président angolais entre deux chefs d'État et un qui est identifié comme étant le président d'un pays qui nous agresse. Et c'est un moment, je pense, très important, très capital, où les deux présidents de la République vont échanger, vont parler, vont se regarder dans les yeux. Et je pense que nous devrions tout simplement attendre le retombé de cette rencontre, tout en espérant, bien évidemment, que les uns et les autres vont aller dans le sens de privilégier la paix, mais aussi de voir l'intérêt que nous avons, nous tous, à vivre comme pays voisin dans la paix, dans la sécurité et orienter toute notre richesse, tous nos efforts et tous les dynamismes que nous pouvons avoir à travers nos deux populations vers le développement de la région.
De son côté, professeur à l'Université de Liège en Belgique et analyste politique, Bob Kabamba relève quant à lui le caractère complexe des conflits cycliques qui sévissent dans l'est de la RDC et auxquels le médiateur, le président angolais, est appelé à proposer des solutions diplomatiques. On l'écoute.
Ce que le président angolais va tenter de faire, dans un premier temps, c'est d'arriver à un cessez-le-feu entre donc le M23 avec son parrain rwandais et d'autre part l'FARDC. Si du côté rwandais et du côté congolais, on accepte ça, on va passer ce qu'on appelle à une phase de désaccord politique. C'est-à-dire que on n'est plus dans la phase militaire, maintenant nous passons dans la phase des accords politiques où on essaye maintenant de déterminer les causes de ce conflit. Dans la phase suivante, ce qu'on appelle la phase de transformation du conflit, on s'attaque aux causes pour que ces causes ne reviennent plus et qu'on soit toujours dans la même logique. Alors là où se situe la difficulté, qu'il y a d'une part et du côté congolais, et du côté rwandais, et du côté aussi du médiateur. C'est que lorsque vous analysez ce conflit, vous allez vous rendre compte que le conflit a plusieurs niveaux. Vous avez déjà un niveau local. Et ces problèmes au niveau local ont des répercussions au niveau provincial. Et ensuite, en ayant cette dimension provinciale, on a une dimension nationale. Du fait que Kinshasa doit se mobiliser pour essayer d'y faire face. Et après, on a la dimension régionale et la dimension internationale. Le problème ici, c'est que la dimension régionale, l'implication du Rwanda, même de l'Ouganda, vient, entre guillemets, se greffer sous des problèmes locaux et qui rend le conflit complexe.
Tous les trois intervenants que vous venez de suivre ont participé hier soir dans l'émission de Dialogue entre Congolais de Radio Kapi animée par Donat Madimba. Les extraits ont été sélectionnés par Guy Matetsongo. Entre-temps, sur le terrain au nord Kivu, deux déplacés sont décédés sur le site de Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo au nord de Goma. Des conditions sanitaires et humanitaires difficiles dans lesquelles vivent ces milliers de déplacés seraient à la base de ces décès. Plus de 3500 ménages ont fui leur village dans trois groupements des Djomba, Bweza et Kisigari. C'est à cause des affrontements entre l'armée et la rébellion du M23 dans le Rutshuru. Ces personnes déplacées vivent dans une misère indescriptible. Elles crient au secours, nous dit Denise Lukeso.
Placide Semasaka, une année, est mort lundi vers 19h dans une salle de classe de l'Epemboga où sa famille a trouvé refuge, faute de moyens pour ses parents de les faire soigner. Angoisse du président des déplacés Théo Moussoukoula.
Hier, un déplacé est décédé et aujourd'hui un autre encore est décédé à l'Epemboga. Nous l'avons emmené à l'hôpital, on a refusé de les soigner faute d'argent. Il vient de mourir tout de suite. Nous alertons les NRC, OCHA, ACR, le PAM et notre gouvernement provincial et national que la maladie, le manque de nourriture, manque de médicaments, des installations sanitaires et de l'eau vont exterminer les déplacés. Et nous ne savons pas comment nous allons enterrer ces déplacés. Nous n'avons ni cercueil, ni l'argent pour payer la tombe.
Installé depuis deux semaines maintenant à l'Epemboga, à Kanyaruchinya et dans des églises, plus de 350 000 ménages vivent dans une forte promiscuité. Ils vivent un véritable calvaire. Après plusieurs alertes lancées au gouvernement congolais et aux humanitaires, aucune assistance jusqu'ici. Leur misère semble être loin de finir, disent-ils. Et leur seul espoir et demande, c'est de finir avec cette guerre et retourner chez eux. Goma, Denis Luque sur Radio Kapi.
La sécurité et la coopération sont les deux piliers sur lesquels se repose la communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC, en vue d'assurer la paix et le bien-être des populations des pays de la sous-région. C'est ce qu'a déclaré hier à Kinshasa le secrétaire général du ministère de la coopération régionale, Zachary Chimbinda, a confirmé la tenue en août prochain à Kinshasa du 42e sommet de cette institution. Par ailleurs, en prévision de ce sommet, le secrétariat exécutif de la SADC organise depuis hier à Kinshasa un atelier de formation et d'orientation des médias sur le processus et les avantages de l'agenda de l'intégration régionale de cette communauté en RDC. Les experts en intégration régionale y prennent part aussi. À Bounia, des notables et chefs coutumiers des communautés Lendu et Ema ont participé hier à une journée de consultation sur les priorités de la paix, atelier organisé par la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri en collaboration avec le consortium Médiation qui regroupe quelques organisations internationales. Objectif de ces assises, encourager les deux parties à conjuguer les efforts pour la recherche d'une paix durable et la cohabitation pacifique. De son côté, le vice-gouverneur de l'Ituri a exhorté les deux parties à saisir cette opportunité pour régler définitivement leurs différends pour l'intérêt suprême de la population. Le général Benjamin Alunga Boni est au micro de Isaac Remoyope.
Peuple éthiopien, Hema et Lendu, nous sommes unis par le sort. Ouvrons nos cœurs longtemps enfermés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix pour bâtir un Ituri meilleur. Ituri est un don béni de Dieu. Vous avez de l'or, vous avez de l'uranium, vous avez des diamants, vous avez du pétrole, vous avez des poissons. Vous avez un sol arable, mais vous manquez un cœur d'amour. Il est temps de vous regarder dans les yeux. Heyman, Lendu, regardez-vous dans les yeux, transcendez vos problèmes. Parce que l'avenir de vos enfants, de vos familles, de l'Uturi en dépend. Voilà l'opportunité qui vous est offerte pour défaire cette réalité qui circule, que les Heyman et Lendu ne s'attendent pas. Prouvez aux yeux de la communauté nationale, peut-être internationale s'il faut le dire, que ce n'est pas vrai ce qu'on dit de vous.
Direction le Congo central, je vous l'ai dit dans le titre, réouverture officielle hier de la frontière congolo-angolaise de Lufu dans le territoire de Songololo, cela 2 ans après, suite aux mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19. Cette réouverture effectuée à l'issue d'une grande cérémonie à laquelle ont participé les ministres de l'Intérieur de la RDC et de l'Angola marque la relance des activités au marché transfrontalier de Lufu et la reprise de trafic de l'Angola vers la RDC et vice-versa. Dans son adresse, Daniel Asselo a indiqué que cette réouverture ne devrait pas donner lieu à des désordres. Nana Plurich Mambou signe ce reportage.
Cette relance officielle tant entendue des activités au marché transfrontalier de Lufu est un ouf de soulagement pour les habitants de tous les coins du Congo central. Avant la survenue de la pandémie qui a conduit à sa fermeture, ces lieux de négoce où se font les échanges commerciaux permettaient à toutes les couches sociales d'acheter à moindre coût plusieurs produits tels que les couches jetables pour bébés, les laits, la farine de maïs, l'huile végétale, les chaussures pour ne citer que ceux-là. Cette réouverture qui intervient grâce à un accord entre Kinshasa et Luanda ne marque cependant pas la fin de la maladie de Covid-19. Le ministre de l'Intérieur de la RDC, qui l'a rappelé dans son discours, invite au renforcement des mesures barrières et de la sécurité dans les frontières de la RDC. Daniel Asselonkoi.
La Covid-19 n'est pas encore terminée. Ainsi, nous devons vivre avec. La sécurité des frontières de la République démocratique du Congo doit être assurée par nos services. La réouverture de nos frontières n'appelle pas à du désordre.
La frontière congolo-angolaise de Lufu n'est pas la seule qui rouvre. À travers cette cérémonie qui a connu la participation des ministres de l'Intérieur de la RDC et de l'Angola, des gouverneurs du Congo central et ceux de plusieurs provinces angolaises, toutes les frontières angolaises avec la RDC reprennent également leurs activités. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les travailleurs des magasins des expatriés, principalement des Indo-Pakistanais, poursuivent leur grève déclenchée il y a près de 10 jours. Ce mouvement touche plusieurs coins de la ville, notamment des maisons de commerce, des différents marchés de Kinshasa. Les grévistes décrivent notamment le non-respect du SMIG, des horaires de travail trop élastiques et une sous-traitance à outrance qui leur prend une bonne partie de leur salaire. Israël Kaleka, un de ses agents, explique ce qu'il en est au téléphone de Babel Mpongo Masimango.
On n'arrête pas parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la solution à la revendication n'est pas encore trouvée. Le respect des SMIG, le respect de l'horaire de travail et la suppression de la sous-traitance dans le secteur des commerces. Par rapport à l'horaire de travail, on travaille du lundi au dimanche. Et le dimanche, c'est obligatoire. Et certaines personnes sont révoquées parce que le dimanche, elles ne viennent pas. Et concernant la sous-traitance, bien qu'elle soit légale, mais elle n'est pas respectée. Les travailleurs ne perçoivent pas la totalité de son salaire. Par exemple, l'employeur donne 50 dollars au chef de la sous-traitance. Et lui donne au travailleur 90 ou 110 dollars. Et le travailleur n'a pas le droit de réclamer ce qu'on demande à l'État, c'est que le gouvernement prenne des mesures responsables et autoritaires.
La justice congolaise, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, prend solennellement l'engagement d'élever la nation. Elle compte sur le sens paternel du chef de l'État afin que la nation élève autant la justice en réhabilitant ses animateurs. Déclaration du président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta. Il a dit hier, lors de l'ouverture des travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature à Kinshasa, c'était en présence du Premier ministre et représentant personnel du chef de l'État. Reportage Jeff Ngoy Mulunda.
Poser le diagnostic et trouver une thérapeutique au problème qui ronge la magistrature, c'est ce à quoi sont appelés les magistrats durant ces 10 jours de travaux au cours desquels sera entre autres soumis à l'examen rigoureux le rapport annuel de l'Assemblée générale du CSM. Son président, Dieudonné Kamouleta, en appelle à la responsabilité et l'intégrité des magistrats.
Responsabilité sera le prix à payer par tous les magistrats s'ils veulent être des vrais acteurs de l'histoire de l'instauration de l'état de droit.
Le président président du syndicat autonome des magistrats Edmond Issofa plaide pour l'application des résolutions attendues et l'amélioration des conditions sociales.
En ce qui concerne les conditions socio-professionnelles des magistrats, il faut qu'on puisse aboutir à des résolutions pour que finalement, qu'on n'y revienne pas chaque année. Puisque nous avons l'impression que lors des assises, nous revenons sur les mêmes questions. Et l'attention est beaucoup plus placée sur les affectations, les mises en place, alors que le soubassement doit être les conditions sociales du magistrat, peu importe l'endroit où il peut être envoyé.
Venu de Lubumbashi, l'auditeur supérieur et militaire colonel Elita salue l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi qui, selon lui, ne cesse de demander aux magistrats de jouir totalement de leur indépendance sans obéir à qui que ce soit, si ce n'est qu'à la loi.
Actualité internationale. Poussés vers la sortie par la junte malienne, les Français poursuivent leur repli entamé en février dernier, ce au terme de 9 ans de présence ininterrompue au Mali pour lutter contre les djihadistes. Après Gossi et Menaka, les militaires sont en passe de quitter courant août leur dernière emprise malienne. Au total, la France doit sortir du Mali quelques 4000 containers et 1 millier de véhicules, dont des centaines de blindés.
L'invité.
Le boom minier que connaît la province du Lualaba suscite souvent des plaintes au sein de la population quand celle-ci doit être délocalisée ou relocalisée par les sociétés minières qui achètent leurs parcelles ou concessions. Pour remédier à ce problème, l'Assemblée provinciale du Lualaba a voté un édit portant modalités d'indemnisation, de compensation et de réinstallation des communautés affectées par des projets dans la dite province. Pour en parler, nous recevons Gaston Mouchid, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba et auteur de cette proposition d'édit. Il est interrogé par Alain Romouchinj.
Monsieur le député Gaston Mouchid, bonjour.
Bonjour.
Quelle est l'opportunité de cet édit?
La province du Lualaba est une province essentiellement minière. L'exécution des projets de développement et ceux relatifs à l'exploitation des ressources naturelles, notamment minières et énergétiques dans cette province, entraînent souvent les déplacements des communautés et parfois elles portent atteinte à leurs droits des propriétés privées. Et les constituants obligent à l'État congolais de garantir les droits à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Et donc, chaque fois qu'il y a des problèmes, des relocalisations, des délocalisations dans la province du Lualaba, il y a beaucoup d'insatisfaits. On donne de l'argent forfaitairement. Bien sûr qu'il y a le code minier et le règlement minier qui note qu'il faut donner 150% de la valeur. Mais quel est le taux et quelle est la mesure applicable pour indemniser? Ça pose un problème. Ça relève du forfaitaire. Nous avons été appelés par plusieurs fois pour calmer les manifestants, c'est-à-dire les habitants relocalisés ou délocalisés qui ne sont pas contents de ce qu'on leur propose. D'où la nécessité de fixer un édit qui fixe le taux et même les mesures applicables.
Je vais vous demander d'être concret. J'ai ma parcelle, je suis à Kolwezi et il y a une entreprise minière qui s'intéresse à ma parcelle et qui voudrait me délocaliser ou me relocaliser. Concrètement, comment ça se passe?
Ah voilà, ça c'est l'intéressant même de l'édit. Nous avons prévu que quand un propriétaire de projet veut relocaliser ou délocaliser une population, mais l'idéal c'est de relocaliser pour construire une nouvelle cité. Et alors, il y a des informations qui doivent être mises à la disposition de peuples qui doivent être relocalisés ou délocalisés. C'est-à-dire, il faut collecter les données. J'ai dit dans cet édit que les services étatiques puissent évaluer les taux. Parce que, comme vous le savez, tous les espaces ne sont pas les mêmes. Et il faut savoir quelle est la valeur de telle ou telle autre localité. D'abord, il faut fixer un taux. Il faut savoir par mètre carré, c'est-à-dire tenir compte de la superficie et du rang de la localité. Quand on est au centre-ville, si je suis à Kinshasa, je dis la Gombe, la superficie n'est pas la même par mètre carré. Le prix, ce n'est pas la même chose que à Massina ou à Njili. Après, les bâtisses ont leur valeur. Et il faut savoir, quand on construit en brique adobe ou en brique cuite ou en matériaux durables, quel est le coût par mètre carré des bâtisses? Et après, il faut éventuellement calculer les arbres, fruitiers ou non fruitiers. Passe ta compte aussi. Même n'importe qui peut évaluer par lui-même. Il s'est dit, ma parcelle a 1200 mètres carrés. Donc déjà, sur les plans de taux, je vais avoir autant. Et après, j'ai construit autant de mètres carrés. Il sait que je vais avoir ça. Et lorsque la maison a les carreaux, c'est une valeur ajoutée ou le plafond. Tout ça doit être évalué par l'unité et multiplions maintenant par le nombre de superficies. C'est-à-dire que c'est des données que nous demandons que celui qui a le projet de délocaliser ou de relocaliser mette à la disposition de la population. Bien évidemment, avec les concours des services de l'État technique, on doit savoir que dans cette zone, il faut autant. Et alors, chacun peut, même en cas de contestation, réévaluer par lui-même et dire, non, mais ma parcelle, c'est 1200 mètres carrés. Vous ne me payez pour 1000, pourquoi?
C'est vrai qu'en vous entendant parler, on comprend qu'il y a un boom minier dans la province du Lualaba, à telle enseigne que même dans les parcelles résidentielles, on trouve des minerais. Mais est-ce que, avec cet édit, vous ne craignez pas que dans quelque temps, la ville de Kolwezi puisse disparaître carrément?
Disparaître, non. Parce que c'est ce qui s'est fait déjà. Nous connaissons une cité qui s'appelle Chekamine Kolwezi, qui est en voie de disparition. Mais on ne peut rien à partir du moment où les codes miniers ont de l'ampleur sur les codes fonciers. Mais moi, ce que je propose dans l'édit, c'est que cette relocalisation se fasse dans la règle de l'art. La Chekamine avait construit des cités. Mais si vous pouvez maintenant construire des nouvelles cités avec une valeur ajoutée de 150%, c'est qu'on n'aura pas les cités qu'on a construites en 45 ou 50. Ce sera des cités modernes. De plus en plus, la ville peut être relocalisée, mais on aura une belle ville, plus que celle que nous avons, à condition que les habitants, le bénéficiaire, puissent gagner.
On reproche beaucoup à la RDC d'avoir des belles lois, mais dans la pratique, ça pose problème. Est-ce que ce ne sera pas le cas de votre édit pour terminer?
Je crains que ça soit le cas, parce que nous avons prévu même des sanctions, et nous voulons que la population qui nous écoute, les officiels et les autorités étatiques, nous aident à faire appliquer la loi. Nous connaissons des gens qui ont touché 1 750 $ pour être délocalisés, et à Kolwezi, vous ne pouvez pas acheter une parcelle à ce prix-là. Ça signifie qu'ils ont donné, ils sont devenus des locataires à vie. Et nous voulons lutter contre cette pratique.
Monsieur le député Gaston Mouchet, merci.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.